À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Lisons encore le verset 12. Louez le Seigneur. C'est des paroles claires. En fait, comme tout l'épître de Jacques, nous devons seulement le lire 5 fois et le Seigneur parle. Louez le Seigneur. Seigneur, donne-nous ce matin un tel cœur qui ne soit pas orgueilleux, mais nous voulons nous humilier devant ta parole. Nous avons besoin de ta lumière et de ta guérison. Louez le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. J'ai beaucoup apprécié. Le Seigneur aimerait nous amener tous au but. Et au début de Jacques, on voit pourquoi le Seigneur nous a donné une nouvelle vie. Pourquoi est-ce qu'il nous a amenés? Pour que nous soyons riches et avec beaucoup de succès. Ce n'est pas le but, mais que nous soyons les prémices de sa création. Pour cela, le Seigneur nous a donné une nouvelle naissance. Et nous sommes dans ce monde, et c'est aussi bon parce que le Seigneur utilise cela pour tester notre foi, pour qu'elle soit éprouvée. Mais le but, ce n'est pas de grandir dans ce monde, mais le Seigneur est différent. Il dit, il donne la grâce à ceux qui s'humilient. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et ce but d'être un prémisse de sa création, ce que nous devons avoir, c'est aussi ce que le Seigneur dit. Soyez patients jusqu'à la venue du Seigneur. Et il aimerait rassembler un fruit quand il vient. Et Hier, nous avons déjà lu sur les riches ou de ceux qui disent « On ira dans cette ville ou dans cette ville, on fera du commerce et on aura du gain. » C'est le contraire de l'esclave. Jacques, c'était un esclave de Christ. Et dans Matthieu, on voit en tant qu'un esclave, il a reçu quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait du commerce et un gain. Et le Seigneur lui dit, « Bien, fidèle serviteur, il y en a aussi certains qui ont fait du gain, mais le Seigneur leur dit, « Pleurez sur votre misère. Quel trésor est-ce que nous voulons avoir? Quel gain est-ce que nous voulons rassembler? » J'aimerais ce gain de Matthieu 25, d'affaire du commerce avec ce que le Seigneur nous a donné. Et ça dépend, le dernier chapitre dépend beaucoup avec le retour du Seigneur. Parce que il dit clairement, vous avez rassemblé des trésors dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et le Seigneur dit ici, c'est comme dans les jours de Noé. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les temps de Noé? Ils ont mangé, ils ont acheté, vendu. Ils n'ont pas attendu la venue du Seigneur. Et quand est-ce que tu fais une fête? Quand est-ce que tu fais? Si tu as seulement peu à manger, tu ne vas pas faire une fête, mais si tu as trop, s'il y a plus que ce dont tu as besoin, si tu es un riche, comme la plupart d'entre nous probablement, alors tu peux faire une fête. Alors ensuite, tu peux aussi très vite être détourné de cela et ne plus attendre la venue du Seigneur. Ça, c'est l'avertissement ici parce qu'il dit quels sont les résultats de cela. Si tu rassembles des trésors dans les derniers jours, alors tu travailles et tu as trop. Et au verset 5, tu deviens orgueilleux. Et au verset 5, vécu dans les voluptés, dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs. Au verset 6, vous avez condamné, vous avez tué le juste. Et ça, c'est comme dans Matthieu, le Seigneur. Elle a eu des esclaves sur sa maison pour lui donner la nourriture. Ils ont un devoir. Ils doivent servir les autres et servir le Seigneur. Et un esclave dit, Mon maître tarde. C'est le méchant esclave. Et quel est le résultat d'une telle attitude? Il commence à faire ce qui est écrit là. Il commence à manger, à boire, de se saouler et de taper ses serviteurs. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pour des personnes qui sont très riches. Ce n'est pas écrit pour ceux qui sont très riches, mais dans le moment où dès le moment où j'aimerais me rassembler des trésors, où mon argent et mon or, des choses, doivent être en sécurité. Il dit que les rouillés, à la fin, ça ne t'amène rien. Alors, à un moment, tu perds cette direction. Nous sommes là pour être des prémices, pour être les prémices de sa création. Que le Seigneur puisse nous donner de la persévérance de pouvoir attendre sa venue. Particulièrement après un tel temps de la conférence, nous sommes tournés, nous attendons le Seigneur, nous voulons aller de l'avant avec lui, mais ça a besoin de persévérance. Comment est-ce que c'est? En tant qu'étudiant, tu vas quelque part, tu ne sais pas grand-chose, tu ne sais pas qu'est-ce qui va venir. Mais ensuite, j'ai réalisé, quand tu travailles, tu es dans ta vie journalière, tu reçois plus d'argent que ce dont tu as besoin pour manger. C'était pas ainsi avant, pas ainsi. Et comment est-ce que c'est ensuite? Est-ce que j'attends le Seigneur exactement de la même manière? Et avec ma vie, Où est-ce que je commence à rassembler quelque chose, à faire des plans pour le futur? Pour ça, nous avons besoin de persévérance et de la sagesse d'en haut. J'ai souvent dit au Seigneur, il me manque la sagesse. Comment est-ce que je peux célébrer la fête des tabernacles dans ce temps? Donne-moi de la sagesse dans toutes ces choses. Que nous ne devions pas fatigués. C'est pour ça qu'il dit au verset 7. Soyez patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients. Pourquoi? Parce que nous nous endormons très vite. Parce que le Seigneur peut-être ne vient pas ainsi. S'il viendrait la semaine prochaine, ça serait plus simple. Parce que ce n'est pas un long moment. Mais parce qu'il tarde, il dit même, s'il vient à la deuxième ou la troisième veille de la nuit, et là, il nous trouve encore éveillés. Ou si nous trouvent en donnant, distribuant la nourriture, il leur est dit, heureux les esclaves, que le Seigneur trouve ainsi. C'est un exercice de ne pas simplement le faire pour une semaine, pour un mois, mais continuellement, de pouvoir tenir ferme et de servir le Seigneur. Il fait cette comparaison, voici. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il est patient à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Comment est-ce que c'est si tu plantes quelque chose? Est-ce que tu as directement une récolte? Ça a besoin d'un certain temps. C'est ce que le Seigneur a déjà dit au début. Prenez la parole avec douceur. Maintenant, dans le temps, c'est une parole qui nous est parlée. J'espère que ce n'est pas seulement une doctrine qui est en haut, mais ça doit être une semence vivante qui est plantée. Mais est-ce que tu as directement une transformation? C'est peut-être un livre de notes, mais la transformation, le fruit, ça a besoin de temps, ça a besoin de patience. Mais le Seigneur aimerait avoir ce fruit, le fruit précieux de la terre. Sur cette terre, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Et il y a tant de choses parties bizarres. Mais le Seigneur aimerait avoir un fruit précieux. Les mauvaises herbes, c'est pas notre vue. Ça ne doit pas nous impressionner ou nous influencer. Comment est-ce que le monde se développe? C'est des mauvaises herbes. Mais nous voulons être amenés un bon fruit pour le Seigneur. Pourquoi est-ce que ça a besoin de persévérance? Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. La pluie de la première et de l'arrière-saison. On pense parfois que le fruit vient directement, il vient automatiquement, que le Seigneur amène le fruit, mais comment est-ce que tu reçois la pluie? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour la pluie? Je n'ai pas entendu qu'est-ce qu'il a dit. Mais pour la pluie, tu ne peux pas acheter de la pluie ou amener de la pluie. Mais dans le psaume 84, il y a une clé, il dit, je vous le lis. Béni, psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. En allemand, c'est même qui amènent à Sion. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Là, il y a la pluie de la première saison et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Loué le Seigneur. La pluie vient après la vallée de Baca, dans cette vallée des pleurs. Il la couvre aussi de bénédictions. et cette vallée des pleurs, les épreuves, sans les épreuves, nous n'allons pas parvenir à maturité. Et là, il est aussi ici. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et ça ne dépend pas de ta force. Si tu es dans la vallée des pleurs, tu ne dois pas jubiler, te réjouir, fortifier en esprit. Tu es dans une vallée des pleurs, mais là, il est là. Tu peux faire de cette vallée un lieu plein de sources. C'est ce que le Seigneur veut faire. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et tu crées à lui des pleurs. Ça ne doit pas être sur moi-même, mais des pleurs au Seigneur. Et ensuite, ça devient une source. Louez le Seigneur. Nous avons reçu cette clé du Seigneur. Nous ne devons pas être si forts ou capables. Mais si nous crions au Seigneur, nous nous humilions devant lui, alors ça deviendra une source. Et ensuite, le Seigneur donne la pluie et donne la résurrection. Louez le Seigneur. Fortifiez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Seigneur est à la porte. Affermissez vos cœurs. Peu de temps avant le but, de ne pas boiter. C'est normal qu'on boite ou qu'on n'est pas si sûr au début, mais le Seigneur aimerait nous affermir. Pour cela, c'est ce que le Seigneur dit. Comment est-ce que le cœur est affermi? C'est par la grâce, pas par... Comment est-ce que je dois dire? Par la connaissance théorique, ça ne va pas rendre ton cœur affermi. Mais la grâce du Seigneur nous rend ferme. Et ensuite, c'est aussi précieux que nous puissions nous donner la grâce les uns aux autres. Comment est-ce que je peux aider si je vois? On va parler souffrance, c'est aussi un devoir de pouvoir donner de la grâce. Le Seigneur dit même, ou il l'a dit au début, de rendre visite aux veuves et aux orphelins. C'est une chose particulière. Pourquoi? Parce qu'ils sont seuls, ils n'ont personne qui peut intercéder pour eux. Mais le Seigneur, le Dieu des orphelins ici, si je ferme mon cœur et je dis oui, regarde comment tu vas t'en sortir. Alors, comment est-ce que je dois dire? Ce n'est pas bon, mais nous devons. Le Seigneur nous a mis pour que nous allons et que nous amenions la grâce et de pouvoir affermir le cœur. Ne te retire pas. Le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va t'éprouver. Souvent, ça a besoin d'un rappel. Pour moi, c'est ainsi. Si je suis dans une épreuve, je suis reconnaissant pour chaque rappel de ce que le Seigneur veut œuvrer. Parce que on est parfois, on voit seulement la montagne. Mais on oublie ce que le Seigneur a dit. C'est pour ça, affermissez vos cœurs. Nous devons tourner notre cœur et aussi pouvoir amener la grâce dans les épreuves. Pouvoir se rappeler, le Seigneur veut t'amener à maturité. Louez le Seigneur. Et ensuite, au verset 9, il y a de nouveau cet avertissement. Parce que l'avènement du Seigneur est proche et le Seigneur aimerait venir chercher la récolte. C'est comme si tu vois déjà les fruits, ils sont peut-être encore verts, mais ils sont déjà là. Et ensuite, il y a un insecte qui vient. Ce serait si dommage que ça va corrompre le fruit. Et l'ennemi de dehors, il œuvre. D'un côté, ça nous amène de l'avant s'il y a une pression qui vient, mais s'il y a un murmure qui prend une pierre d'achoppement, on a déjà eu plusieurs fois pendant ces jours. ça ne doit pas corrompre le fruit pour le Seigneur. Ça ne doit pas voler notre droit d'aînesse. J'aimerais pas, à cause d'une erreur ou d'une pierre d'achoppement, certaines choses, de pouvoir manquer le but. Et il dit là, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Ça montre qu'est-ce que ça œuvre. Si je murmure, je me plains contre le frère, je pense que c'est juste entre moi et lui, mais en fait il dit que vous ne soyez pas jugés. Jugés par qui? Jugés par le frère. Qu'il me juge? Non. Là il y a Dieu qui, ça c'est dit sur Dieu, que Dieu va me juger. C'est vraiment un avertissement parce que l'ennemi va essayer cela. Nous ne lui laissons pas de place. Et au verset 10 et 11, c'est une parole qui nous console, une parole qui nous encourage parce qu'il y a besoin de modèles. Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience, les prophètes qui ont, il a dit les modèles d'enseignement. Il ne dit pas apprendre de ceux, comment est-ce qu'on peut bien parler, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux, modèle de souffrance et de patience. Modèle de persévérance. Modèle de persévérance. Souvent, quand je vois des frères et sœurs qui sont dans les souffrances, c'est un exemple pour moi. Un exemple dans la persévérance. Il mentionne Job parce que c'est une image si précieuse. Comme il est par ses épreuves, il a été perfectionné. Et au début, ça va si bien avec Jacques, parce qu'au début, il a tout perdu. Il dit, Job 1, verset 21b, « Seigneur a donné, le Seigneur a pris, que le nom de l'Éternel soit loué. » Tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'était encore bon, c'était matériel. Mais ensuite, c'était pour lui-même la deuxième étape. Il y avait encore une deuxième étape. Il est encore plus forte. Et là, au chapitre 2, le verset 9, sa femme lui dit, entre deux, il y a Satan qui est allé devant l'Éternel et dit, tu l'as béni. Laisse-le aller lui et là il va te maudire. Le Seigneur accepte. L'Éternel accepte au verset 9. Et la femme de Job qui vient, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. De telles pensées dans les épreuves viennent souvent si on réfléchit comment est-ce que ça serait ou comment est-ce que je peux sortir de cela. Mais ça, c'est la sagesse d'en bas que nous avons vu dans le chapitre 3. La sagesse d'en bas est terrestre, charnelle et diabolique, démoniaque. Et là, il a regardé et lui a dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il y a même les lèvres qui sont mentionnées là. Il ne pécha point par ses lèvres. Que nous puissions prendre cela comme modèle, persévérer dans les souffrances, de persévérer. Parce que ces pensées, c'est égal si elles viennent de dehors ou si c'est nos propres pensées. La sagesse d'en bas va essayer de nous amener à notre chute, mais Job ne pécha point avec ses lèvres, par ses lèvres. Et même les amis de Job, Ils doivent aller vers Job et ils doivent prier et intercéder pour eux. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, ils n'ont pas parlé droitement devant moi. Mais Job a réussi cette épreuve. Louez le Seigneur. Le Seigneur utilise toutes ces choses pour nous perfectionner, pour nous amener à maturité. Certaines choses, ce ne doit pas être une épreuve très grande, comme Job où on est à l'hôpital, mais nos lèvres, notre parole, comment est-ce que nous allons avec cela? Est-ce que nous tenons ferme au Seigneur et nous gardons le but devant nos yeux? Ou bien est-ce que nous nous retirons? C'est vraiment Job, de prendre Job comme exemple, de persévérer. Et le Seigneur est plein de grâce et de miséricorde. Vous avez vu la fin, que le Seigneur est très miséricordieux et plein de compassion. Louez le Seigneur, je crois. Comme résumé, nous voyons tous ces chapitres de Jacques. C'est résumé dans le chapitre 5. En étant concentré sur le royaume du Seigneur, le Seigneur aimerait préparer des épreuves pour nous. Il aimerait avoir des prémices de sa création. Et que nous ne laissions pas de place à l'ennemi. Et d'avoir la persévérance dans l'attente de son avènement. Louez le Seigneur. Nous puissions vraiment travailler avec cette parole jusqu'à ce qu'il y ait du fruit qui en ressorte.